monde, selon Éric Arsenault, au 95.7 Kick.
La seule chose qu'on entend de cette partie, c'est si leur membre doit avoir une exemption, s'il peut entrer dans la Chambre de commerce sans être vacciné. Ça montre clairement une faillite de leadership et les conservateurs doivent être embarrassés de leur comportement dans ce temps difficile.
C'est improbable qu'il y ait beaucoup d'exemptions médicales qui sont là. C'est pas logique.
Bon, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce qu'on vient d'entendre? Parce qu'on sait que le statut vaccinal des élus conservateurs est sous les projecteurs à cette rentrée parlementaire qui se déroule aujourd'hui. Le chef Erin O'Toole a déjà annoncé que ses 118 députés et lui seront présents à la Chambre des communes parce qu'ils seraient, je vais le mettre au conditionnel, tous vaccinés ou ont obtenu une exemption pour des raisons de santé. Mais ce qu'on vient d'entendre, Max, là, c'est que ça a l'air que des exemptions de santé, il y en a beaucoup qui ont un billet du médecin.
Oui, exactement. Ça, c'est un député du Parti libéral là, qui parlait de ça ce matin là, en disant que ça n'a pas de bon sens. Il faudra en choisir 5 ou 6 qui fonctionnent, puis les autres, ben c'est pas nécessairement ça. Là.
Voilà, on va en discuter avec Éric Arsenault. Bonjour, Éric.
Bonjour tout le monde.
Ouais, j'ai l'impression que M. O'Toole va être content de cette rentrée parce que les dernières semaines n'ont pas été faciles pour lui, hein?
Oh que non, parce qu'il a eu à affronter une crise de son leadership. Mais en fait, je te dirais que depuis l'élection, puis ça avait même commencé avant, il y a des gens qui, au sein du Parti conservateur, grenouillent effectivement pour avoir sa tête. Évidemment, on s'attendait à beaucoup mieux en termes de nombre de sièges. On s'attendait à ce que les conservateurs prennent le pouvoir. Ça n'a pas été le cas. Erin O'Toole, pendant la campagne, a souvent été dénoncé. Mais rappelle-toi, on s'en était parlé, Richard. Pendant la campagne électorale, Erin O'Toole a effectué une espèce de recentrage de son parti qui n'était pas nécessairement au goût de ceux qui sont à l'extrême droite dans son parti, ceux dans l'Ouest notamment, mais qui s'était dit en campagne électorale, on va fermer notre trappe, on va se mettre babine au neutre, parce que si ce mouvement de recentrage permet au moins d'avoir le pouvoir, au moins on sera satisfait de ça. C'est pas ce qui s'est passé. Et là, on se rend compte qu'effectivement, à l'intérieur du parti, son leadership reste toujours contesté. La semaine dernière, il y a une sénatrice conservatrice qui avait lancé une pétition pour réclamer un vote de confiance sur Erin O'Toole. Qu'a fait M. O'Toole? Il a exclu la sénatrice du caucus, une façon pour lui peut-être d'affirmer son autorité et son leadership, sauf que le grenouillage en coulisses a toujours pas cessé et ça risque de continuer encore.
Mais le dossier de la vaccination, je trouve, est un bon exemple du type de leadership d'Erin O'Toole qui, oui, veut se rapprocher du centre, veut pas déplaire à sa base. Tu sais, il a jamais clairement dit, non, regarde, là, les députés qui seront pas vaccinés, ils rentrent pas à la Chambre des communes. Il y a encore un flou artistique autour de sa position concernant la vaccination.
En fait, il a fait sur ce dossier-là la même chose que ce qu'il a fait sur certains thèmes pendant la campagne électorale. Confronté pendant la campagne électorale à des questions claires puis à des questions simples, il a tourné autour du pot, il essayait de ménager la chèvre et le chou, puis finalement, en bout de course, on se demandait, coudonc, à quel camp ou à quelle enseigne il loge sur tel ou tel dossier. On se rend compte que c'est exactement la même chose là-dedans. Il me semble que ça devrait être assez clair face à une règle qui est claire. Tous les députés doivent être doublement vaccinés ou encore être exemptés médicalement, encore que là, ça laisse place à un certain flou. Mais là, ça, c'est les règles de la Chambre des communes. Et Erin O'Toole, encore, je l'écoutais hier, refusait de dire si tous ses députés étaient vaccinés. Il disait, tous mes députés seront en Chambre. Sauf que la question était claire. Est-ce que tous vos députés sont vaccinés? Et aux dernières nouvelles, au dernier décompte, on avait toujours autour de 25-30 députés pour lesquels on n'était pas sûr du statut vaccinal.
Donc, s'ils sont tous en Chambre, ils ont tous des billets du médecin. C'est ça qu'il faut comprendre.
Ben, en tout cas, oui, c'est ou ben non, ils sont dans le processus de, mais ouais. Effectivement, ça entretient la confusion.
Bon, mais pendant ce temps-là, Justin Trudeau, lui, est à Rideau Hall avec son popcorn. Il regarde ça aller. Lui, il regarde. Entre-déchirez-vous, entre conservateurs. Mais il y a quand même un agenda. Là. Il veut faire passer certains projets de loi d'ici Noël, entre autres, un projet de loi visant à s'assurer que des militants anti-vaccins ne puissent pas manifester devant des établissements de santé ni menacer des gens qui y travaillent. On a vu ça là, au Québec. Là.
Exactement. Mais dans le fond, le gouvernement fédéral emboîterait le pas au gouvernement du Québec qui a déjà passé une loi, effectivement, pour interdire ces manifestations d'anti-vaccins devant les établissements de santé, devant les écoles, interdire également l'intimidation des travailleurs de la santé parce que c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement partout. Alors, oui, effectivement, la pandémie risque probablement, Richard, d'être toujours dans le collimateur de la reprise des travaux parlementaires. Outre, évidemment, ce projet de loi pour interdire les manifestations d'anti-vaccins, il y a également toute la reprise économique post-pandémique, l'aide notamment aux secteurs encore touchés, la pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est probablement des choses auxquelles le gouvernement Trudeau devra s'attaquer très rapidement. Il y a également toute la question du congé de maladie payé pour les travailleurs des secteurs de compétences fédérales. Puis ça vous concerne, ça, les gens de la radio, parce que vous êtes effectivement de juridiction fédérale. Alors, on parle d'un congé de 10 jours pour les travailleurs de ces secteurs-là. Ça, probablement que c'est un projet de loi qui risque d'aboutir bientôt. Comme aussi un autre projet de loi qui avait été présenté aux communes il y a de ça quelques mois, mais qu'on n'avait pas pu adopter avant le déclenchement des élections. Et quand ça se produit, bien, on dit que le projet de loi est mort au feuilleton. Donc, il a fallu en faire une nouvelle mouture qu'on va probablement représenter. C'est un projet de loi pour empêcher les thérapies de conversion, c'est-à-dire forcer des personnes gays, par exemple, à changer d'orientation sexuelle. Alors, probablement que ça risque d'être dans le décor. Il y a probablement d'autres choses qui risquent de revenir aussi à l'avant-scène, notamment toute la question du commerce avec les États-Unis. On l'a vu avec la visite de M. Trudeau la semaine dernière à Washington. Il y a tout un vent de protectionnisme aux États-Unis qui est en train de remonter. Il y a toujours eu du protectionnisme aux États-Unis, mais là, on le sent, et même Joe Biden semble être d'accord avec tout ça. Alors, les suites de la COP26 en matière d'environnement, ce qui se passe actuellement en Colombie-Britannique, l'aide aux sinistrés, les inondations. Alors, il y a plusieurs gros dossiers sur la table de M. Trudeau et de son gouvernement.
Et il faut s'attendre à ce que le NPD soit le partenaire de dents libéraux, là.
Oh, tout à fait, absolument. Parce que la dynamique est celle d'un gouvernement minoritaire, mais dans un certain sens, les partis sont condamnés à travailler ensemble. Alors, le Parti libéral va pouvoir compter sur l'appui ponctuel du NPD, du Bloc peut-être à l'occasion. Parce que rappelle-toi, Richard, il y a eu une grogne vraiment importante dans la population à l'époque du déclenchement des élections, parce que Justin Trudeau, l'une de ses raisons, l'un de ses prétextes, c'est de dire « Ouais, mais le Parlement ne fonctionne pas rondement. » Or, les électeurs ont dit « Non, c'est pas vrai. Le Parlement, il fonctionnait bien. Sauf que tu voulais avoir une majorité, tu l'as pas eu. » Et dans un certain sens, avec des résultats d'élections qui sont presque identiques à ceux de 2019, ben le message qui est envoyé au gouvernement, c'est de dire « Ben là, il va falloir que tu travailles avec les partis d'opposition. » Et dans un certain sens, c'est comme si M. Trudeau se retrouvait en gouvernement majoritaire, parce que les partis d'opposition pourront pas se payer le luxe de faire tomber le gouvernement et de porter l'odieux d'une nouvelle élection. M. Trudeau, en revanche, lui, peut pas utiliser l'argument de dissoudre le Parlement puis de déclencher des élections si l'opposition collabore pas ou si on paralyse le Parlement. Alors, dans un certain sens, c'est comme s'ils étaient enchaînés l'un à l'autre. Ils vont devoir travailler ensemble.
Éric, je veux absolument te parler de ce qui s'est passé au cours des dernières minutes du côté de la Chambre des communes, parce que, bon, les députés qui étaient présents devaient élire le président ou la présidente de la Chambre des communes. Il y a trois femmes qui étaient en liste parce qu'il n'y a jamais eu de femme à la présidence. Et finalement, on vient de savoir il y a quelques secondes à peine là, que c'est à nouveau le libéral Anthony Rota qui a été réélu à la présidence. Sauf qu'il y a comme du théâtre qui suit avec ça. Le premier ministre et le chef de l'opposition qui vont chercher de force le président qui l'emmène jusqu'à sa chaise. Ça part d'où, ça? Je sais qu'il y a une tradition en arrière de ça, là.
Voilà, c'est une vieille tradition qui est héritée, en fait, du parlementarisme britannique. C'est qu'à une certaine époque, au Royaume-Uni, le président de la Chambre des communes était menacé de mort s'il apportait de mauvaises nouvelles au roi. Et dans un certain sens, à certains moments donnés, il aurait voulu chercher à s'enfuir, à éviter la mort. Et la tradition est comme restée. Alors, évidemment, c'est une simple formalité, mais évidemment, tout ça, c'est un petit peu théâtral. Sauf qu'il y en a certains qui poussent le bouchon un peu plus loin. Et je vous rappelle, pour mémoire, ce que François Paradis de la CAQ avait fait, parce que la tradition également a cours à l'Assemblée nationale, ouais. Et François Paradis, lorsqu'il avait été élu, mais vous connaissez François Paradis, il en avait mis un petit peu plus que le client demandait, et ça avait évidemment fait beaucoup rire la galerie. Alors oui, effectivement, alors c'est une scène qu'on voit régulièrement. T'as le premier ministre d'un côté, t'as le chef de l'opposition officielle, puis t'as le nouveau président qui se débat un peu puis qui fait mine de pas vouloir s'installer au fauteuil de la présidence. Alors, c'est une vieille tradition qui remonte au Royaume-Uni puis qu'on a conservée. Ça fait partie du folklore parlementaire.
Éric Arsenault, il y a juste toi pour nous garder captifs pendant 10 minutes quand on parle de politique fédérale. Je le disais en ouverture d'émission, tu nous lirais ta liste d'épicerie que ce serait intéressant quand même. C'est pour ça que pour ta prochaine intervention, je vais te demander de garder ta liste d'épicerie. Et on va effectivement faire le test en ondes à savoir si tu es capable de nous garder captifs juste en lisant ta liste d'épicerie.
Wow, là, tu me donnes tout un mandat.
Ouais, alors, ça va nous permettre d'apprendre à te connaître aussi, voir quels sont les produits que tu consommes.
Ben oui, c'est sûr. Vous allez voir, je suis assez conservateur.
Ah. Oh! Non, non, non!
Mais pas politiquement parlant. Ah! Conservateur! culinairement parlant.
Voilà. Salut, Éric Arsenault, professeur d'actualité internationale en ATM, au dire d'Alexandra, le meilleur professeur au cégep de Jonquière.
Je pourrais avoir des témoins, des témoignages de collègues qui te diraient la même chose, Richard.
Ça. Mais on va surveiller sa liste d'épicerie. Ce n'est pas un gag. Là. On va vraiment... Mais j'ai des contacts dans son entourage. On va mettre la main sur la liste d'épicerie.
C'est quoi les pommes qu'il a choisies? Est-ce qu'il mange des pommes?
Oui,
c'est ça. C'est-tu McIntosh, Cartland?
Quelle sorte de steak haché?
La pomme verte, ah oui, c'est vrai. Meg, mi-meg, extra-meg.
Non, on va voir. Peut-être qu'il est vegan aussi, mais on ne sait pas. Voilà. Plus tard dans l'émission, maintenant, ne manquez pas, pas la prochaine pause, l'autre d'après.
Ouais.
Vous pourriez gagner plus de 3 000 $ en prix en un seul clic. Donc ça, c'est d'ici 17 h, puis on va s'entretenir aussi avec notre morning man préféré. Et j'ai nommé Dominique Fortin.